Vous le savez maintenant, nous avons organisé un jeu concours avec Alain Juillet et je vous donne rendez-vous à la fin de cette émission pour répondre aux modalités et pour participer à ce jeu. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour.
Bonjour Claude.
Une nouvelle émission ?
Une de plus.
Une de plus, avec un invité, Jérôme Bondu, qui, expert en intelligence économique, qui commet un certain nombre d'ouvrages. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une émission qui va certainement peut-être parler d'intelligence économique, mais vous allez plus parler communication et information.
Vous êtes bien informé. Vous êtes bien informé. Oui, j'ai souhaité, en accord avec Claude, j'ai souhaité inviter aujourd'hui Jérôme Bondu, que je connais depuis de longues dates. J'ai voulu qu'on parle avec lui d'un problème qui est très important au niveau de notre société, c'est celui de la désinformation et de l'influence, des opérations d'influence, et pourquoi. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine, vous voyez ce qui se passe en Palestine, en Israël et en Palestine. Les fausses informations, les manipulations de l'information, les opérations d'influence se succèdent dans tous les sens et de tous les côtés, et presque bien de tous les côtés, c'est-à-dire dans chaque partie, on en trouve autant. Là-dessus, il faut arrêter de rêver, il n'y a pas les bons et les mauvais, tout le monde est dans le coup. Il faut qu'on apprenne à gérer ce type de problème, à comprendre comment ça se passe, et ensuite, évidemment, à savoir extraire le bon grain de l'ivraie, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, c'est pour ça que je me suis permis de vous demander, vous qui êtes un expert dans ce domaine, de venir pour que justement qu'on puisse le commenter. Parce que on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est vieux comme le monde.
Alors, avant toute chose, merci Monsieur Juillet pour cette invitation. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Oui, alors les problèmes de manipulation, de propagande, d'influence sont vieux comme le monde. On peut aller assez loin en arrière par exemple, s'arrêter sur Sun Tzu, qui est un des premiers à quelque part s'intéresser au monde de l'information. On est au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est un Chinois, Sun Tzu, ça veut dire maître Sun, et il explique que pour faire la guerre, il faut connaître son ennemi, et si on peut intoxiquer l'ennemi, eh bien, on a des chances plus importantes de gagner. Et puis, on peut prendre toute une série d'exemples, alors j'en ai plein en tête, on peut s'intéresser au coq gaulois, par exemple. Pourquoi le coq est-il l'emblème de la France ? C'est une question qu'on peut se poser. C'est une opération d'influence. On est en moins 50 avant Jésus-Christ et Jules César, qui est à l'époque proconsul de la République romaine, veut les pleins pouvoirs. Et il sait que pour avoir ces pleins pouvoirs, il doit séduire le Sénat en quelque sorte. Et pour séduire le Sénat, il doit commettre une action militaire. Il décide d'attaquer les Gaulois. Pourquoi les Gaulois ? Parce que c'est le pire cauchemar des Romains. Les Gaulois avaient en moins 309 avant Jésus-Christ attaqué Rome et failli détruire Rome, et dans la mémoire collective des Romains, c'était resté comme extrêmement prégnant. Donc il fait la conquête des Gaules, on sait, veni vidi vici, et on se rappelle que l'objectif, ce n'est pas la conquête des Gaules en tant que telle, c'est la conquête du Sénat romain, ce qui est très différent. Et au-delà de la conquête militaire, il écrit un livre, « Mémoire de la conquête des Gaules ». Et dans ce livre, il fait un jeu de mots, puisque le hasard veut qu'en latin, Gaulois se disent Gallus et coq se disent Gallus aussi. Et à partir de là, si vous voulez, il y a plein de jeux de mots qui sont possibles. Donc c'est très amusant. Les Gaulois sautent tous les matins les pieds dans la merde. Et donc, à partir de là, l'animal coq a été associé aux Gaulois, puis aux Francs, qui sont venus au 4e siècle après Jésus-Christ, qui n'aura rien à voir avec les Gaulois, à voir. Mais quelque part, ce parallèle a été conservé. Et c'est depuis, 2050 ans après, que nous associons encore le coq à la France, alors qu'au départ, c'était une moquerie.
Donc une bonne manipulation réussie.
Mais totale. D'autant plus que dans l'Empire romain, vous le savez, l'animal emblématique va être l'aigle. Et l'aigle, par rapport au coq, on n'est quand même pas sur les mêmes.
Sûr, on nous rabaisse.
Et donc, vous voyez, là, c'est une magnifique opération de manipulation, de déstabilisation et de décrédibilisation d'un peuple, les Gaulois, qui auparavant faisait peur aux Romains.
Dans le fond, on se l'approprie, puisque maintenant, on emmène nos coqs dans les matchs de rugby pour les lâcher.
Bien sûr, sans savoir d'où ça vient. Alors, après, je vais prendre un exemple. On peut parler de la ville de Carcassonne. Il y a une belle opération de déstabilisation aussi. On peut parler de Charles Martel, on peut parler des sorcières, on peut parler des croisades. Il y a plein d'exemples sur lesquels des actions de manipulation ont été mises en place, qui ont un impact considérable. Monsieur Juillet, Dans ces cartes, laquelle vous voulez saisir ?
Alors, les sorcières, hein, les sorcières, parce que c'est récent. Les dernières, on les a brûlées il y a 300 ans, quand même. Hein. Parce qu'on parle des Afghans qui lapident les femmes, mais nous, il y a 300 ans, on a brûlé les femmes pour nous accuser de sorcières, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Hein.
Et on est au 15e, 16e, et les États ne sont pas tout à fait constitués. Il y a des luttes d'influence entre seigneuries. On va déconstruire le mythe des sorcières. Voilà. Et on va prendre des éléments objectifs. Premièrement, les sorcières sont des femmes, plutôt âgées. Généralement, c'est elles qui sont dépositaires de la mémoire du lieu. Deuxième élément, les quatre sorcelleries sont dans des zones tampons entre deux pouvoirs qui, quelque part, se tirent un peu la bourre. Troisième élément, quand il y a un code sorcellerie, il se manifeste par l'envoi d'un juge, d'un des deux pouvoirs adjacents, si vous voulez, à la zone tampon, l'envoi d'un juge, mais on n'envoie pas un juge seul, on le fait accompagner par la troupe. Quatrième élément, la troupe reste. Cinquième élément, généralement, cette zone tampon où il y a eu le code de sorcellerie est annexée par le pouvoir qui a envoyé une troupe. Conclusion, c'est très simple. Quand on est un pouvoir et qu'on veut annexer une zone tampon, on génère de manière artificielle un problème, un code de sorcellerie, ce qui nous donne le prétexte d'envoyer la troupe et, in fine, d'annexer le territoire. On peut facilement dire que les cas de sorcellerie sont des manipulations mises en place par des États ou des structures de pouvoir qui voulaient annexer un territoire. Et les femmes âgées ont fait les frais de cette opération de manipulation. Alors, je ne sais pas exactement, mais le nombre de sorcières brûlées est absolument considérable.
Oui, c'est considérable. En France, c'est considérable.
Alors, après, ça ne veut pas dire que les gens n'y croyaient pas, qu'il n'y avait pas des cas de sorcellerie. Pas de problème, je ne prétends pas ça. Je dis simplement qu'il y a eu instrumentalisation, manipulation à des fins territoriales.
Et là, on est en plein dans ce qu'on disait sur la manipulation, l'influence.
Alors, on peut donner un élément de définition à côté de ces exemples historiques. Le grand public mélange abondamment, et on ne peut pas lui en vouloir, des termes comme données, information, renseignement. Et il est intéressant, et en intelligence économique, on apprend, il est intéressant à découper les choses. Alors, on peut facilement définir la donnée comme étant un élément inutile. La donnée, c'est pénible. En fait, Internet charrie énormément de données. Nous vivons dans un bain continuel de données qui nous écrase. Et d'ailleurs, on a créé toute une série de termes, infobésité, surabondance informationnelle, qui le prouvent. L'information, c'est une donnée qui répond à une question. Le renseignement est une information qui permet d'agir. Et là, vous avez une segmentation très très claire et qui me permet de dire que sur Internet, ce n'est pas un accès aux informations ni aux renseignements. C'est un accès facilité aux données. Pour que ça devienne information, il faut qu'au préalable, on se soit posé une question. Et pour que ça devienne renseignement, il faut au préalable qu'on ait une action en attente.
Bien sûr.
Oui. Et donc Internet, quand on dit que c'est un média d'accès aux informations, moi je tic. Non, c'est un média qui nous donne une infinité de données à portée de main. Par contre, il y a un effort intellectuel, il y a un questionnement préalable si on veut obtenir des informations et il y a une volonté d'action si on veut dire qu'on a trouvé un renseignement. Vous voyez, donc, et pour continuer sur des aspects de définition, on vit dans un monde de la surinformation, mais on sait très bien qu'en termes de manipulation, il y a aussi la sous-information, désinformation, mésinformation. Et je trouve que le terme fake news simplifie outrageusement des choses qui devraient être en réalité plus segmentées. Et nous devons en réalité apprendre à vivre avec le numérique et apprendre à vivre avec ces définitions.
On a eu des opérations de manipulation d'information, d'influence, de traitement biaisé, je dirais, de ce qui pouvait se passer. On l'a beaucoup vu le siècle dernier, au XXe siècle. Hein.
Je ne vais pas dire que c'était magnifique en termes de...
Et on n'avait pas l'Internet.
Et on n'avait pas Internet. Quand je dis magnifique, bien sûr, je mets des guillemets, parce qu'il s'est passé des choses affreuses. Et là encore, j'ai envie de vous présenter un certain nombre de cartes. Et je vous propose de tirer celles que vous voulez. On peut parler, par exemple, de la grève des dockers à Marseille, ce qui a fait que les Américains se sont appuyés sur la mafia marseillaise. On peut parler du Nicaragua, du Guatemala. Alors là, on parle d'opérations de manipulation de nos amis américains. Il est évident que nos amis russes ne sont pas en reste. Mais comme, généralement, quand on parle de nos amis russes, ils ont une culture de la désinformation qui est très très forte, plus que celle des Américains en réalité. Donc c'est plus drôle en réalité de prendre des exemples américains. C'est pour ça que toutes mes cartes sont des cartes américaines.
Mais celle des dockers, je la trouve très intéressante parce que ça se passe en France, on parle de dockers, Et vous allez voir que c'est une très belle histoire.
Alors voilà, c'est très simple. Fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains mettent en place le plan Marshall. Pourquoi ? Pour aider les nations d'Europe de l'Ouest ? Oui, mais non. En réalité, c'est pour éviter que les Soviétiques aient une trop forte emprise sur ces pays-là. Et il y avait un deuxième objectif qui est purement mercantile, écouler les surproductions américaines.
Absolument, il ne faut pas l'oublier.
Il ne faut pas l'oublier. Donc le plan Marshall s'est mis en place, et les Soviétiques voient très bien le coup venir. Et comme les marchandises allaient arriver en certain nombre au port de Marseille, ils téléguident une grève des dockers communistes à Marseille. Les Américains voient le truc venir et se disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Premièrement, ils créent Force ouvrière, donc ils créent un syndicat qui va venir segmenter l'unité syndicale. FO est une création de la CIA.
Absolument. FO, et oui, FO, on ne le sait pas, mais FO a été créé par la CIA et financé par la CIA pendant de nombreuses années.
Et deuxième élément, ils vont s'appuyer sur la seule force capable de casser la grève des dockers, la mafia. Et notamment la famille Guérini. Mmh. Et l'essor de la mafia marseillaise doit tout à la CIA pour permettre l'acheminement des denrées, des marchandises du plan Marshall. Attention, je précise que l'actuel parlementaire Guérini dit ne pas être de la même famille que les mafieux. Je le précise pour pas qu'il y ait de
confusion. Il faut savoir que les relations avec la mafia en 44-45 sont très importantes. Pourquoi ? Parce que quand les Américains qui ont débarqué en Algérie décident d'attaquer l'Europe, et ils vont débarquer dans un premier temps en Sicile, le problème c'est que personne n'a d'informations sur la Sicile. Comment faire le débarquement en Sicile avec un minimum de pertes ? Et à ce moment-là, les Américains vont, la CIA américaine, enfin à l'époque c'était pas encore la CIA, mais va aller voir le chef de la mafia italienne qui s'appelle Lucky Luciano aux États-Unis, hein, Lucky Luciano, et va lui dire, voilà, on va faire un deal, comme font les Américains, vous, la mafia, elle est très forte en Sicile, vous allez donner l'ordre à votre mafia de nous aider et de nous accueillir sur les plages du débarquement et de nous faciliter le travail pour qu'on puisse prendre la Sicile à toute vitesse. En contrepartie, on ferme les yeux sur le trafic de cigarettes et le trafic de drogue entre l'Italie, la France et les États-Unis. Et Lucky Luciano va organiser avec les Américains le débarquement sur la Sicile, et la France va, le sud de la France va devenir le centre pour les laboratoires pour transformer la drogue, pour faire de la cocaïne, hein, avec les fameux chimistes de toute l'époque, et la mafia donc, qui contrôlait tout ça, évidemment, va avoir un poids considérable. Il a fallu des années pour qu'on décode ce qui s'était passé derrière.
Alors Guatemala, on est dans les années 50, 54 je crois, et vous avez un président de centre-gauche qui va être élu. Il s'appelle Jacobo Arbenz Guzmán. Oui. Et il se trouve que dans le Guatemala, vous avez beaucoup de terres inexploitées qui appartiennent à une boîte américaine qui s'appelle la United Fruit Corporation. Oui. Et Guzmán a un problème, c'est qu'il a des paysans pauvres sans terre. Il va voir le patron de la United et lui dit, je caricature, je te rachète tes terres. Et le patron de la United lui dit non. Non, je voulais garder parce que des fois qu'il y aurait plus de consommation aux États-Unis, je vais pouvoir planter des bananes. Problème. Jacobo insiste et finalement, le président de la United lui dit, bah, écoute, ok, d'accord, par contre, sache que ça va te coûter très très cher. À peu près 100 fois la valeur estimée, parce qu'en fait, la valeur de ces terres a été sous-estimée. Mmh. Et Jacobo, je caricature bien évidemment mon propos, le prend mal, il lui dit non, je te rachète tes terres au prix de la valeur telle que c'est actuellement. Il y a un problème, c'est que parmi les patrons de la United, il y a quelqu'un qui s'appelle Dulles, et il a un frangin qui s'appelle Alan Dulles.
Patron de la CIA.
Patron de la CIA. Il appelle son frère et lui dit, sais-tu que nous avons un odieux communiste à la tête du Guatemala ? Il ne faudrait pas que ça fâche tache d'huile. Sa réforme agraire est quelque chose qui pourrait extrêmement nuire à nos intérêts. La suite, vous la devinez, Jacobo est déposé. À la place, ils mettent un magnifique, je mets des guillemets bien sûr, hein, c'est ironique, un magnifique dictateur sud-américain. Conséquence, guerre civile, 200 000 morts.
Ouais.
200 000 morts. Et pour passer rapidement au Nicaragua, c'est à peu près le même système. Un gouvernement se fait élire de centre-gauche, les sandinistes, alors centre-gauche, gauche. Et les Américains voient ça d'un mauvais œil et veulent financer l'opposition, les contras.
Les contras.
Le problème, c'est que le Congrès américain interdit à la CIA de financer directement les contras. Mmh. Niet, si vous me permettez l'expression. Du coup, là, il y a un problème. Comment faire? Et là, ils vont mettre en place un élément qui ressemble un petit peu à ce que vous venez de dire, qui est absolument ahurissant. La CIA va aller voir les forces en présence, qui sont les narcos, en fait, ils vont leur dire « On vous laisse vendre votre CAM aux États-Unis. Nous, CIA, on va transporter la drogue avec nos avions. Vous pourrez la vendre dans la banlieue noire de Los Angeles. On ramène le pognon en avion. Par contre, une partie va au Contras. » Et c'est ce qui va être fait. Et vous allez avoir un journaliste qui s'appelle Gary Webb, qui va étudier ça, il habitait Los Angeles, il étudie, il tire le fil et il comprend, il écrit un article. Et il dénonce ce scandale absolument incroyable. Et vous devinez la suite. Viré de son boulot, sa femme le quitte, alcoolisme, suicide. Voilà, la destinée de Gary Webb, qui avait dénoncé un des plus grands scandales du XXe siècle.
Deux autres choses pour joindre ça, c'est... Ce qu'on ignore, c'est que l'endroit où l'United Fruit avait le plus de pouvoir, de terre et de richesse agricole, c'était le Venezuela. Et quand on a voulu toucher, quand les dirigeants vénézuéliens, avec Chavez, ont voulu toucher au domaine de l'United Fruit, c'est là où le blocus du Venezuela a commencé et continue encore aujourd'hui. Donc vous voyez comme quoi tout se tient. Mais ça, jamais on vous le raconte. C'est là où on va la manipulation de l'information. On va vous dire, oh là là, c'est des communistes. Alors pour les Américains, bien sûr. Ce sont des communistes, ce sont des affreux, il faut les bloquer, ils pourraient toucher chez nous. Non, la raison, la vraie raison, elle est bien plus loin. Et pour les contrats, il y a une autre. Alors il y a une affaire extraordinaire, et bien ça, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a cet argent de la drogue qui est recyclé pour les contrastes, mais ça ne suffit pas. Et alors, un des conseillers à la sécurité du président de l'époque, président américain de l'époque, a une idée géniale. Il dit, mais on va vendre des armes. Nous sommes chez les Américains. On va vendre des armes. Qui peut en acheter? L'Iran qui est en guerre contre l'Irak. L'Irak, lui, est soutenu par les Français. Saddam Hussein était soutenu par les Français pour faire la guerre contre l'Iran. Alors, les Américains vont vendre à l'Iran, mais... Comme on l'a dit, la CIA, la loi américaine interdit que la CIA puisse vendre des armes à des pays étrangers. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre des armes à Israël. Et c'est Israël qui va vendre les armes à l'Iran. Alors vous voyez, quand aujourd'hui on voit les Iraniens et les Israéliens qui se tapent dessus, ils ont tous les deux oublié qu'il y a quelques années, les uns vendaient aux autres des armes et que tout le monde trouvait ça très bien. Vous voyez, pour vous montrer que le dessous des cartes n'est pas toujours d'une clarté totale par rapport à ce qu'on nous raconte.
Et c'est ce qu'on appelle l'Iran Gate.
C'est l'Iran Gate.
Et les surplus, exactement. En fait, parce que l'armée israélienne avait des surplus, mais pas assez. Donc les Américains, en effet, ont offert quasiment aux Israéliens des munitions qu'ils ont vendues aux Iraniens. Et l'argent de cette vente, les Américains ont dit simplement aux Israéliens, c'est pour les contrastes.
C'est pour les contrastes.
C'est totalement ahurissant.
C'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Et puisqu'on parle du Moyen-Orient, on ne peut pas ne pas parler des guerres du Golfe.
Oui, bien sûr.
Les Américains voulaient abattre Saddam Hussein.
C'est clair.
Et l'opinion publique américaine et internationale ne les suivait pas. Et il fallait quelque part avoir un élément déclencheur. Et lors de la première guerre du Golfe, donc on est en 1990-91, première guerre du Golfe, George Bush père, on va avoir un élément vraiment déclencheur. Alors, ce n'est pas le seul. Un élément important de la manipulation qui a été mise en place par les Américains a pris les traits d'une jeune fille qui s'appelle Naira. Et nous sommes en 1991, on est dans les préparatifs au niveau États-Unis de l'invasion de l'Irak. Il fallait quand même quelque chose qui touche le grand public. Et le Congrès américain va avoir une commission des droits de l'homme et va recevoir le témoignage d'une jeune fille. Elle s'appelle Naira. Elle dit que c'est un nom d'emprunt. Et elle explique qu'elle était à Kuwait City le jour de l'entrée des troupes américaines. Et donc, bien évidemment, cette jeune Koweïtienne qui explique devant cette commission du Congrès qu'elle était dans une maternité, qu'elle était à Kuwait City, qu'elle a vu les soldats irakiens rentrer dans la maternité, se saisir des couveuses, prendre les bébés, les jeter par terre... Elle est en pleurs, ça émeut tout le monde. Et George Bush père lui-même reprend ce témoignage. George Bush père, qui était le président d'exercice aux États-Unis et qui est l'ancien président de la CIA, il ne faut pas l'oublier. Donc on peut considérer que c'est l'homme le plus informé du monde à cette époque-là. Et le fait qu'il reprenne cet exemple montre bien qu'il y a collusion. En fait, vous l'avez deviné, vous l'avez compris, le témoignage de cette jeune fille est faux. C'est la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis, c'est Naira Al-Sabah, qui a été briefée, pardon l'anglicisme, qui a subi une formation accélérée de la part d'une société de communication qui s'appelait Hill & Knowlton. Hill & Knowlton qui a reçu 10 millions de dollars de la part de l'extrême droite américaine et de la part du Koweït pour retourner l'opinion publique américaine.
– Récemment, on a eu dans l'affaire du 7 octobre en Israël, vous avez vu, il y a eu au démarrage, il y a eu toute une série d'histoires sur des bébés décapités. Hein, et pareil, évidemment, ça horrifie tout le monde, on dit que ceux qui ont fait ça sont des monstres. Mais là, il faut reconnaître à Israël quelque chose, c'est que Tsahal a dit, l'armée israélienne a dit, non, ce n'est pas vrai, il n'y a aucun élément qui permet de raconter ça après tout ce qu'on a vérifié. Donc vous voyez, mais n'empêche que, pareil, l'idée avait été lancée par un groupe, évidemment, qui manipulait l'opération. Alors que ce n'était pas la peine, il y avait déjà suffisamment raconté comme ça. On a parlé, on vient d'évoquer rapidement une intermédiaire pour montrer qu'en définitive, ben, depuis toujours, avec des techniques différentes, mais tout le monde joue ça, et comme vous l'avez très bien dit, et tous les pays, parce que là on a parlé des États-Unis, mais on aurait pu parler de la Russie, de la Chine,
de la France.
De la France.
Avec la Bleu 8 en Algérie,
on peut le raconter quand même, parce que là c'est intéressant, parce que sans traque aussi, on n'est pas forcément si mauvais que ça, d'une certaine manière, pour le point de vue de certains.
Donc on est dans ce qu'on appelait les affaires d'Algérie, et l'armée française va manipuler le FLN, donc c'est la branche politique, et l'ANL, l'armée de libération nationale, qui est la branche armée, et ils vont monter un stratagème, et encore une fois, je mets des guillemets, parce qu'on est sur quelque chose qui est émotionnellement assez fort, encore pour beaucoup de nos compatriotes, et pour nos amis algériens. Donc ils vont monter une opération de manipulation. Avec différents degrés, mais je vais en présenter simplement un, ils vont prendre quelqu'un qu'ils savaient être du FLN. Ils vont le mettre dans une voiture et ils vont parader dans les rues d'Alger. Le simple fait que les Algériens, et notamment ceux du FLN, voient un de leurs compagnons être dans la voiture d'un soldat français va jeter la suspicion. Il va être donc, au soir de cette tournée, attrapé par ses copains qui vont le questionner, et questionner très durement, qui vont le torturer. Et on sait très bien que sous la torture, on peut dire n'importe quoi. Il va dénoncer d'autres membres du FLN comme étant faisant partie de cette conjuration. Et ça va totalement désorganiser une branche du FLN en Algérie. Voilà. Donc, encore une fois, personne n'est à l'abri d'actions de manipulation qu'on juge aujourd'hui totalement répréhensibles. On est bien d'accord.
Tout à fait. Ils sont, et en particulier, le maquis d'Amir Rouche a été déstabilisé complètement parce que il y avait une suspicion qui s'est étendue sur une quantité de membres dirigeants de cette wilaya, et avec les conséquences que ça a pu avoir. Ça aussi, c'est de la manipulation, mais c'est une manipulation appliquée, alors là, dans un cas de guerre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle? C'est l'arrivée d'un média totalement différent des autres, qui ouvre des possibilités insoupçonnées. C'est l'Internet.
Et c'est prodigieux. On peut dire que c'est qu'Internet est la cinquième grande révolution informationnelle. La première, c'est le langage, il y a 100 000 ans. La deuxième, c'est l'écrit, il y a 5000 ans. La troisième, c'est l'impression, il y a 500 ans. La quatrième, c'est l'électrification des outils de communication, télégraphe, téléphone, radio, télévision, il y a 150 ans. Et nous vivons la cinquième grande révolution informationnelle. Il est important d'avoir ce recul critique, parce que ça permet de se rendre compte que tout va changer. Et bien évidemment, dans les opérations d'influence et de manipulation, ça va changer énormément de choses. Cambridge Analytica ?
Ah bah oui, ça permettra à certains de comprendre, parce qu'on en reparle de nouveau de Cambridge Analytica. Donc.
Alors, posons le contexte, nous sommes en 2016 et il va y avoir un vote pour le Brexit en Angleterre et pour Trump aux États-Unis. Et vous avez une société qui s'appelle Cambridge Analytica qui s'est fait une spécialité dans la captation de données de personnes, et ils ont récolté 87 millions de profils de personnes sur Facebook. Ils ont fait une sélection des personnes les plus instables, anxieuses, et qui avaient des caractéristiques très particulières qui montraient qu'elles étaient influençables. À partir de là, au sein de Cambridge Analytica, vous avez donc des personnes qui étaient pro-Brexit, pro-Trump, et ils vont envoyer à ces personnes instables, et en Angleterre et aux États-Unis, ce qu'on appelait des « dark posts », c'est-à-dire des messages qui allaient s'autodétruire. C'est important pour qu'il n'y ait pas de traces. Dans ces messages, ils s'adressaient donc à des personnes anxieuses, des personnes qui avaient parfois des troubles psychologiques, mais qui sont des votants comme des autres. Donc intéressant. et ils vont envoyer des messages qui cadrent parfaitement avec la psychologie de ces personnes et avec leur centre d'intérêt. Par exemple, à quelqu'un qui aimait la chasse, il était simple d'envoyer un message en disant « l'Europe va interdire la chasse ». À quelqu'un qui est contre la chasse, il était simple d'envoyer un message du style « l'Europe va renforcer les pouvoirs des chasseurs ». Les messages étaient totalement faux, ça n'avait aucune importance. L'important était de retourner l'opinion de ces personnes et de provoquer le vote qui était attendu, c'est-à-dire pro-Brexit et l'élection de Trump aux États-Unis. Il se trouve que... Alors, David Colomb a écrit plusieurs très bons livres, et dans son dernier livre, La guerre de l'information, il explique quelque chose de très intéressant. Il dit, durant tout le XXe siècle, nous avons eu des structures qui soit faisaient une diffusion de masse des informations, soit avaient plutôt une orientation psychologique, essayer de comprendre ce que pense quelqu'un et lui retourner en quelque sorte la tête. Avec Internet et avec notamment Facebook, il y a la réunion de ces deux compétences. Facebook, c'est plus d'un milliard de membres, donc ils ont l'effet masse. Et c'est une capacité à comprendre très très finement la psychologie des personnes.
Oui, à ce sujet-là, je voudrais pour préciser, Facebook, vous avez pratiquement beaucoup d'entre vous, peut-être même tous, utilisent Facebook. Et sur Facebook, il y a ce qu'on appelle des likes. Vous savez, quand vous trouvez quelque chose que c'est bien, même si vous ne faites pas de commentaires, vous pouvez appuyer pour dire c'est bien. Il faut savoir que les psychologues et les spécialistes, les psychanalystes, tous les spécialistes qui traitent tout ça, à partir de 100 likes, c'est-à-dire on vous prend, on regarde toutes les questions ou ce qu'on vous a montré sur lesquelles vous avez fait un like. Eh bien, quand vous avez 100 réponses de likes, on est capable de définir très exactement ce que vous êtes au point de vue caractère, comportement et tout. Donc on ne le pense pas, on n'a rien dit, on n'a fait qu'appuyer sur un bouton. Eh bien non, les professionnels à travers ça sont capables de vous définir sans erreur tel que vous êtes. Alors ça ouvre la porte à tout ce qu'on vient de dire, évidemment, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Mais alors on parlait des Cambridge Analytica, on a parlé des Américains, Et si on parlait des Russes un peu, parce que nos amis russes, parce qu'ils sont pas mal non plus
ils
se débrouillent.
Ils sont pas en reste. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une tradition de la désinformation qui est très forte. Sans revenir sur les séquences précédentes de notre conversation, on peut dire par exemple quand même qu'en 1900, c'est eux qui ont créé le protocole des sages de Sion, qui est une manipulation qui a eu un effet considérable. Il faut savoir que quelqu'un comme Henry Ford, qui était un sale personnage, un antisémite notoire, a lu ce protocole, l'a cru en quelque sorte, et l'a diffusé largement aux États-Unis, ce qui a retardé la prise de conscience des Américains. Voilà. Donc une vision très très ancienne de l'importance de la manipulation. La guerre froide a aussi renforcé l'utilisation de cette arme, mais venons-en à l'époque actuelle avec le numérique. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, comme ils ne possèdent pas les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ils vont avoir une logique du faible au fort. Ils n'ont pas les éléments structurels, ils vont donc créer des choses qui sont avec leurs moyens, et c'est là qu'on va avoir, et tout le monde en a entendu parler, cette ferme à troll, qui a été créée par feu Evgeny Prigogine.
Prigogine, oui, celui de Wagner,
Absolument.
Qui a été son première étape où il s'est fait connaître par tout le monde avec sa ferme à troll à Saint-Pétersbourg.
Absolument, et donc ils vont avoir comme volonté d'utiliser donc ces personnes qui vont s'immiscer dans des groupes de discussion Facebook, mais pas que, Twitter évidemment, ce qui est aussi un média d'information et de désinformation en même temps. Ils vont jouer sur ce qu'on appelle la polarisation des débats. Il faut savoir que sur ces médias sociaux, alors tous fonctionnent peu ou prou sur le modèle de la régie publicitaire, et plus il y a d'interactions, plus quelque part ça rapporte de l'argent. Ce qui provoque de l'interaction, plus que la joie, la rigolade, le plaisir, c'est la colère. Et donc ces médias, quelque part, peu ou prou, incitent à poster des messages qui mettent en colère. Et donc les soldats, quelque part, de cette ferme à troll vont jouer là-dessus. Ils ne vont pas créer d'événements de toutes pièces. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, par exemple, n'est pas une création russe, bien évidemment. C'est un problème qui est français, qui est endogène en quelque sorte. Par contre, ils vont pouvoir exacerber les positions, notamment sur les groupes Facebook, et enquister, envenimer les débats pour arriver à un pourrissement de la situation. je pense qu'on peut dire que l'objectif des États totalitaires actuellement, c'est d'utiliser les médias sociaux, donc Internet au sens large, pour casser les régimes démocratiques sur la base de l'exacerbation de la colère des gens. Internet est un pharmacon. Il faut que nous soyons conscients de ces enjeux et il faut éviter de laisser aux États totalitaires la capacité de nuisance qu'ils ont actuellement via ces médias.
Comme vous le disiez, moi je me souviens des Chinois, c'était notre ministre, la ministre de la Défense, qui avait protesté là-dessus en disant « Mais attendez, on se fait attaquer par les uns, par les autres, il faut réagir. » La Défense a dévoilé des attaques chinoises sur les Français, où on s'est aperçu, quand on a commencé à expliquer que les Chinois étaient en train d'attaquer dans certains domaines, à travers justement des sites internet, à travers des messages que vous évoquez, ben, il y avait tout un ensemble de choses. Et ben, le lendemain matin, la plupart des gens qui discutaient avec les Français avaient tous disparu. Parce que ben, les autres en face, ils avaient compris qu'ils étaient... on avait compris ce qui se passait, alors c'est plus la peine de le faire. Tous les pays du monde pratiquent ce genre de méthode à partir du moment où ils pensent que ça peut les aider pour faire passer leurs idées par rapport aux autres. Hein, je crois que c'est ça.
Et il faut s'armer. Alors s'armer au niveau cognitif, puisque nous sommes dans une forme de guerre cognitive, hein, une guerre sur notre compréhension du monde. Et la France s'arme d'une certaine manière. Alors on peut citer un certain nombre d'éléments. Premièrement, l'élément doctrinal ou doctrinaire. Et il y a plusieurs... Alors on appelle ça la LIO, LID et L2I, si j'ai bonne mémoire. Alors je vous le cite de mémoire. Lutte informatique défensive, lutte informatique offensive, lutte informatique d'influence. Donc ça, c'est pour l'aspect doctrinal. Après, il y a des lois. Interdiction, par exemple, de diffamer. Après, vous allez avoir aussi le commandement cyber.
Oui, le commandement cyber qui vient d'être créé, oui.
Absolument. Et puis, on peut citer aussi l'organisme Viginum. Donc, il y a toute une série d'éléments qui nous permettent de nous défendre. Mais comme l'a dit, avec beaucoup de sagesse, Sénèque, l'épaisseur des murailles importe moins que la volonté de les défendre. C'est-à-dire qu'au-delà de cette structuration de notre défense, il est indispensable que nous, internautes et citoyens du monde civil, nous comprenions les enjeux, nous nous formions, et c'est pour ça, quelque part, on revient sur l'intelligence économique. C'est pour ça que l'intelligence économique est un domaine passionnant, parce qu'il nous donne des clés de compréhension de ce 21e siècle, qui place l'information au centre des enjeux, nous donne des moyens de le comprendre, de la comprendre, cette information, et les moyens de la récupérer, de l'analyser, de la diffuser, de la transformer. C'est une grille de lecture absolument passionnante. Et M. Juillet, je ne l'ai pas encore dit, mais au nom de tous les professionnels de l'intelligence économique, on vous remercie parce que vous avez eu un rôle considérable dans la structuration.
Au tout début.
Mais ça reste encore, et vous avez posé les pierres qui constituent encore la chapelle ou le château fort de l'intelligence économique.
Je pense qu'on vous aura permis de mieux comprendre ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Et c'est bien le but de ce qu'on voulait faire. Et merci encore, Jérôme, d'avoir contribué largement à éclairer nos auditeurs.
Ben moi, j'ai appris effectivement beaucoup de choses. Et il y a une autre dimension. On a parlé d'Internet, mais aujourd'hui, on va être confronté de plus en plus à l'évolution des techniques, technologies, du cinéma et de l'audiovisuel, où on peut faire dire à des personnages et des personnalités tout et n'importe quoi, et on a le sentiment que c'est vraiment eux qui le disent. Et alors à partir de là, la désinformation va être complète, parce que c'est très très au point. Alors, je voulais juste dire, et rebondir par rapport à ce qui s'est dit auprès de nos auditeurs, n'hésitez quand même pas malgré tout à liker, c'est le petit pouce, nos émissions, et même de cliquer sur la cloche pour vous permettre d'avoir toutes nos émissions, toutes nos informations, tous les vendredis sur YouTube. Voilà. Merci en tout cas de votre intervention.
Merci.
Et à bientôt sur Openbox TV pour de nouvelles émissions. Pour participer à ce jeu concours, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien. Vous découvrirez les questions autour de nos émissions. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite aussi de gagner les nombreux lots que nous vous proposons. Merci. Et à bientôt.